VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. À la une de l'actualité, la mort de 12 personnes dans le centre du Mali due à des exécutions sommaires. C'est ce que relève une enquête de l'ONU. En République démocratique du Congo, l'audience du procès de Moïse Katumbi dans l'affaire dite des mercenaires est renvoyée à octobre prochain. Au Soudan du Sud, un cessez-le-feu permanent doit entrer en vigueur dans les 72 heures. Salva Kiir et Riek Machar ont signé une déclaration à Khartoum. Incompréhension au Maroc après la condamnation à de lourdes peines de prison de meneurs du mouvement Irak. Au Mondial 2018 en Russie, battu 2-0 par la Corée du Sud, l'Allemagne sort en phase de poule de la Coupe du Monde, une première depuis 1935. Mais tout d'abord, le journal. Une enquête de l'ONU sur la mort de 12 personnes dans le centre du Mali a conclu à des exécutions sommaires. Cette enquête a été diligentée à la suite d'une patrouille pendant laquelle un militaire malien a été tué. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
L'enquête de la MINUSMA a permis de conclure que, le 19 mai, des éléments du bataillon malien de la force du G5 Sahel ont sommairement et ou arbitrairement exécuté 12 civils au marché de bétail de Boulkessi, a affirmé la mission de l'ONU dans un communiqué. Le rapport a été transmis au gouvernement selon Mahamat Saleh Anadif, chef de la MINUSMA. Il a appelé les autorités maliennes à s'assurer que l'enquête judiciaire en cours puisse s'effectuer dans les meilleurs délais. Le représentant de l'ONU a exhorté les troupes maliennes et la force du G5 Sahel à conduire leurs opérations conformément au droit international et à protéger la population civile. Peu après les faits, à la suite de la mort d'un militaire malien lors d'une patrouille sur un marché de Boulkessi, l'armée a d'abord parlé de 12 terroristes neutralisés alors qu'il s'agissait de civils selon des habitants. Elle a ensuite évoqué le 7 juin la neutralisation de 12 personnes et l'ouverture d'une enquête.
Au Togo, une ultime rencontre entre les facilitateurs et les protagonistes est tenue ce mercredi à Lomé. Les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition doivent reprendre après 3 mois de suspension. Le point avec Kay Lawson.
Les deux facilitateurs, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Guinéen Alpha Condé, après la séance d'ouverture, ont échangé d'abord avec la délégation du parti au pouvoir, Union pour la République Unie, en présence des membres du gouvernement. S'en est suivi les discussions avec la délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition. Le président guinéen a appelé les deux partis à faire des concessions. Alpha Condé.
Notre objectif, c'est d'accompagner la classe politique togolaise à trouver une solution pacifique pour le bonheur du peuple togolais. Évidemment, on peut avoir des objectifs, mais dans les négociations, ce n'est pas possible de s'entendre si chacun ne fait pas des concessions. Si chacun veut absolument avoir la satisfaction de tous ces revendications, on ne trouvera jamais de solution.
Notons que les deux présidents doivent soumettre au prochain sommet de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une feuille de route de sortie de crise. La coalition de l'opposition a fait savoir qu'elle suivrait les directives de la CEDEAO si et seulement si celles-ci vont dans le sens de ce que désire le peuple, c'est-à-dire le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir en 2020. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le gouvernement togolais vient de lancer une nouvelle politique énergétique qui vise un accès universel d'ici 2030 en s'appuyant notamment sur les énergies renouvelables. Cette stratégie d'électrification qui doit être réalisée en 3 phases et s'étendre sur 12 ans coûtera 1 000 milliards de francs CFA, soit 1,5 milliard d'euros, dont 50% seront issus de fonds d'investissement privés. En République démocratique du Congo, l'audience du procès en cassation dans l'affaire dite des mercenaires qui oppose Moïse Katumbi au ministère public a été renvoyé au mercredi 10 octobre prochain. Raison de ce renvoi, les irrégularités soulevées devant la Cour suprême de justice par la défense de l'opposant congolais. Les détails avec Thierry Katumbi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Devant 7 juges de la Cour suprême de justice, le camp Katumbi, composé d'une 30aine d'avocats en l'absence de ces derniers, a révélé plusieurs irrégularités dans la saisine. Selon le conseil de l'opposant congolais, son client n'a pas été atteint par l'officier de justice. Il n'a donc pas été régulièrement saisi, soutient-il. L'exploit qui avait notifié Moïse Katumbi au domicile où il n'habitait plus est irrégulier, la personne de Katumbi étant à l'étranger. En matière pénale, l'accusé doit comparaître lui-même, a dit le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi, l'un des avocats de Moïse Katumbi. Face à cette irrégularité, les juges de la Cour de cassation ont décidé de renvoyer l'affaire au mercredi 10 octobre courant. Les avocats de l'opposant congolais candidat à la présidentielle de 2018 dénoncent par ailleurs l'absence de leurs clients, empêchés selon eux de revenir au pays pour des raisons politiques. Ce procès s'est déroulé en présence de nombreux soutiens de Moïse Katumbi, poursuivis dans cette affaire depuis mai 2016 pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, aucun cas confirmé de fièvre Ebola n'a été enregistré depuis le 6 juin. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola se stabilise dans le nord-ouest du pays, selon le ministère de la Santé, qui s'inquiète toutefois d'une flambée de choléra ayant coûté la vie à au moins 100 personnes dans le centre du pays. Emmerson Mnangagwa a accusé les partisans de sa rivale et ancienne première dame Grace Mugabe d'avoir prémédité l'attentat dont il est sorti indemne le week-end dernier, un mois avant les élections générales. Samedi, deux membres de la sécurité présidentielle ont été tués, des dizaines d'autres personnes, dont les deux vice-présidents du pays blessés dans l'explosion d'un engin non identifié. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'Érythrée a salué le rapprochement en cours entre l'Éthiopie et l'Érythrée, appelant les parties à ne pas oublier dans leurs discussions le caractère central des droits de l'homme. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont convenu à Khartoum d'un cessez-le-feu permanent devant entrer en vigueur dans les 72 heures. Nathalie Barge.
Salva Kiir et Riek Machar ont signé le document appelé la déclaration de Khartoum en présence du président soudanais Omar el-Béchir. Les discussions entre les deux hommes devront se poursuivre pour parvenir à une entente au plan politique. Les pourparlers ont suivi un sommet des États d'Afrique de l'Est à Addis Abeba, au cours duquel les leaders sud-soudanais avaient été sommés de trouver un terrain d'entente. L'ONU leur avait donné jusqu'à fin juin pour parvenir à un accord politique viable sous peine de sanctions. Des accords précédents de cessez-le-feu ont échoué, comme en 2016, l'année où Riek Machar est parti en exil. Après son indépendance en 2011, le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013. Salva Kiir avait accusé son vice-président d'alors, Riek Machar, de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Des centaines de milliers ont trouvé refuge au Soudan et en Ouganda.
Au Maroc, c'est l'incompréhension après la condamnation à de lourdes peines de prison des meneurs du mouvement Irak qui avaient mené à des séries de manifestations dans la région du Rif en 2016 et 2017. Claire Morin-Gibourg.
C'est un simulacre de justice, a tweeté l'Association marocaine des droits de l'homme, tandis que quelques médias marocains ont souligné la sévérité des peines. Nabila Mounib, figure de la gauche au Maroc, a fustigé ces décisions désastreuses de l'État qui menacent la stabilité et la cohésion du pays, selon ses termes. Les autorités marocaines, elles, ont assuré que le procès s'était tenu conformément aux normes de la justice internationale, en présence d'observateurs internationaux et de médias. À l'issue d'un procès fleuve de 9 mois, la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca a condamné hier soir Nasser Zefzafi, le leader du mouvement Hirak, et 3 de ses compagnons à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. 49 autres militants ont reçu des peines allant jusqu'à 15 ans de prison.
Emmanuel Macron de retour en Afrique dès la semaine prochaine pour participer au sommet de l'Union africaine en Mauritanie. L'occasion pour le président français de faire le point sur la lutte antiterroriste au Sahel avant une visite au Nigeria.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, au moins 9 personnes, parmi lesquelles 5 civils et 4 combattants syriens alliés aux forces d'Ankara, ont été tués dans un double attentat à la voiture piégée qui a frappé la ville d'Afrin, ex-bastion kurde conquis par l'armée turque et des supplétifs syriens. Un attentat qui n'a pas été revendiqué. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure du Mondial 2018 en Russie. Nicolas Pineau nous donne le compte-rendu de la journée. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Rikia, bonsoir à tous. Coup de tonnerre en Russie, l'Allemagne championne du monde en titre est éliminée dès le premier tour. Les Allemands avaient pourtant leur destin entre les mains, mais ils se sont inclinés 2-0 dans les arrêts de jeu contre la Corée du Sud. Dommage pour ces Allemands qui ne profitent pas du faux pas du Mexique, battu sèchement 3-0 par la Suède. Et dans le groupe F, les matchs ont démarré, dans le groupe E, pardon, les matchs ont démarré depuis 18h temps universel. Pour le moment, le Brésil mène 1-0 face à la Serbie, un but de Coutinho. La Suisse également mène 1-0 face au Costa Rica, déjà éliminé, un but de Dzemaili. Scénario à suspense hier soir dans le groupe D. L'Argentine a crucifié les espoirs nigérians dans les ultimes minutes. Lionel Messi a inscrit un premier but dès la 14e minute, mais en seconde mi-temps, Moses a inscrit le but de l'égalisation sur pénalty. L'Argentine pousse alors pour repasser devant et trouve finalement la faille à la 86e minute de jeu. Marcos Rojo, d'une frappe limpide du droit, libère tout un pays. Ce même Rojo, auteur d'une main dans la surface de réparation, mais l'arbitre assisté par la vidéo, a estimé qu'elle n'était pas volontaire. Immense déception pour le Nigeria qui avait son destin entre les mains. J'ai joint Guerre Notre Or, le sélectionneur des Super Eagles, qui se dit fier de son équipe.
C'est un manque de réussite parce qu'on méritait autant que les Argentins d'être qualifiés. Il y a eu aussi cette histoire de pénalty et d'arbitrage vidéo. Il y avait à notre avis une main flagrante qui aurait dû donner un pénalty, mais l'interprétation là de cette vidéo a été à mon avis une faute, puisque c'était un pénalty très clair pour nous, ça aurait pu faire 2-1. Et à ce moment-là, on était pratiquement qualifiés, donc ça tient à peu de choses. Mon équipe a fait un très bon match. Il a fallu un coup du sort à la fin pour que nous perdions ce match. Mais vraiment, les joueurs n'ont pas démérité. Il y a une équipe qui a de l'avenir, qui joue bien au football. Voilà, c'est un challenge maintenant que d'aller vers la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine.
Guerre Notre Or, le sélectionneur des Super Eagles. Les Croates, leader du groupe et déjà qualifié, ont battu l'Islande 2-1. En huitième de finale, la Croatie affrontera le Danemark et l'Argentine la France. La France, un match ennuyeux pour faire match nul 0-0 contre le Danemark. Défaite 2-0 de l'Australie face au Pérou. Enfin, la grande finale demain du groupe G entre l'Angleterre et la Belgique. La Tunisie tentera de sauver l'honneur face au Panama. Anglais et Belges, deux favoris pour le titre, comme le résume le coup de sifflet de Jules Valentengue.
Bonsoir. Dans le groupe G, où l'équilibre n'est pas parfait et où on s'attendait à des confrontations déséquilibrées, les Panaméens et les Tunisiens ont choisi de nous faire des largesses inhabituelles à ce niveau aux redoutables attaquants belges et britanniques. Ce qui va conférer au match au sommet Angleterre-Belgique un arrière-goût de finale de poule tronquée, les matchs précédents passant pour des prolongations de matchs de préparation et la confrontation des deux gros cylindrés se transformant en véritable entrée en matière. En d'autres termes, tous les superlatifs qui ont accompagné ces deux formations truffées d'individualité incontestable et d'un potentiel offensifs d'exception vont prendre leur juste valeur face à des systèmes défensifs beaucoup plus conformes collectivement aux grandes joutes qui permettent de mieux évaluer les performances de haut niveau. Mais rien ne garantit que le match Belgique-Angleterre ne se réduise à un simple galop d'essai et revue d'effectifs en attendant les oppositions moyennes que proposent les équipes du groupe H relativement abordables. Alors, match soporifique ou festival offensif, la suite va nous le confirmer. À bientôt.
Merci Jules Valentin. Dans le groupe H, le Sénégal a son destin entre les mains et doit battre ou faire match nul avec la Colombie pour se qualifier. Co-leader de ce groupe, le Japon affronte la Pologne, déjà éliminée. On va retrouver en Russie Amdine Sy, l'envoyé spécial de VO Afrique aux côtés du Sénégal.
Cette confrontation entre Lyon de la Teranga et Cafeteros de la Colombie semble fort à une finale du groupe H. En effet, la Colombie doit impérativement battre le Sénégal pour valider son ticket pour les huitièmes de finale, alors que le point du nul suffit au point d'Alou Cissé pour décrocher l'argent. Une défaite est toutefois interdite au Lyon du Sénégal. Le Sénégal d'ailleurs jouera pour tout le continent, car tous les représentants de l'Afrique sont éliminés. L'espoir de tout ton continent repose désormais sur les Lions de la Teranga. Mais la tâche ne sera pas facile pour les Sénégalais qui auront en face une très bonne formation colombienne gonflée à bloc après sa belle victoire face à la Pologne. Mais mais le Sénégal a toujours son destin à main et fera tout pour obtenir une victoire, à défaut un match nul, afin d'éviter un fiasco total à l'Afrique. Ahmed Insi, Samara, Véo Afrique.
Voilà, et c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde sur Véo Afrique.
Merci beaucoup Nicolas, à demain.
À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou de retour avec vous. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont convenu à Khartoum d'un cessez-le-feu permanent devant entrer en vigueur dans les 72 heures. Ils ont signé le document appelé la déclaration de Khartoum en présence du président soudanais Omar el-Béchir. Pour une analyse, Idriss Fall a joint Mohamed Naji, directeur de Soudan Tribune à Paris.
L'accord de Khartoum a été précédé par une réunion à Addis Ababa. Et là-bas, ils se sont juste chamaillés, insultés. Toi, tu m'as fait ça, et moi, je t'ai pas fait ça, etc. À partir de là, ils sont venus à Khartoum. Initialement, ils devaient signer un accord cadre. L'accord de 4 pages qu'on a reçu. Grosso modo, en réalité, il ne parle que des arrangements militaires. Avant toute chose, que les deux dirigeants se sont mis d'accord pour l'application d'un cessez-le-feu permanent qui va entrer en vigueur le samedi, c'est-à-dire dans 3 jours. Ça, c'est le point phare. Donc, à partir de là, il invite l'Union africaine et l'IGAD à mettre en place toute la panoplie liée à ce cessez-le-feu permanent, y compris les observateurs, les forces de maintien de la paix, etc. Le fait qu'on va demander au Conseil de sécurité de changer un petit peu le mandat d'une force qui s'appelle la force régionale, au fait qui consiste de 4000 soldats. L'accord aussi qu'on a vu aujourd'hui, il parle de continuer les négociations pour signer ce qu'on appelle un revised bridging proposal. Ça, c'est le côté politique. Et donc, ils vont continuer dans les jours à venir à négocier, n'est-ce pas? Et le problème ici, si vous voulez, c'est le problème de la participation de Riek Machar. Salva Kiir refuse totalement de voir Machar avec lui dans le gouvernement. Il l'accuse d'être toujours celui
le poteau de trouble.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, toujours d'amener des problèmes avec lui, ça. Ils vont continuer à négocier ça.
Est-ce que c'est un nouvel accord de paix différent de celui de 2015?
Il s'agissait de trouver les... Parce que comme vous savez, le président Salva Kiir, déjà, initialement, en 2015, s'était abstenu de la signature des accords pendant 2 semaines. Et après, sous la pression des dirigeants de la région, il a signé. Et il a signé à partir de Juba. C'est-à-dire on a amené l'accord chez lui et c'est là où il a signé. Et depuis le temps, il disait qu'il avait des réserves. Donc après, on a vu un an, Machar était rentré au Juba un an après. C'est pour tout ça pour parler combien depuis le début c'était un accord hasardeux et plein de complications. Du coup, tout le processus qui s'en suivit, c'est un processus en réalité sur les applications des accords de 2015.
Et qui n'ont jamais été réellement respectés, en fait, parce qu'ils sont battus plusieurs fois.
Ils n'ont jamais été mis en œuvre en réalité.
Mohamed Naji, directeur de Soudan Tribune à Paris.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum se met à l'heure du football. 2 semaines après le début de la Coupe du Monde de football en Russie, aucune nation africaine n'est qualifiée pour le moment pour les 8e de finale. Seul le Sénégal défend encore les couleurs du continent. Les Lions de la Teranga peuvent-ils créer la surprise? Que s'est-il passé avec les autres équipes africaines? L'Afrique parviendra-t-elle un jour à placer une équipe en finale? Le football africain est-il esclave de la mondialisation? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Cap sur le Sénégal, les étudiants porteurs de start-up et issus de l'école supérieure polytechnique de Dakar se sont regroupés au sein d'une même entité dénommée Espace Innove dans le but de mutualiser leurs compétences. Cette expérience a été rendue possible par le pionnier Ibrahim Khan, un ancien étudiant de leur école qui a profité des bonnes performances de sa start-up pour intégrer le management de l'université. Reportage à Dakar de Seydina Bangay.
Ingénieur de conception en génie informatique, Ibrahim Khan est devenu enseignant au département génie informatique et responsable du pôle entrepreneuriat et innovation au service de valorisation de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Il y a un an, il était toujours étudiant. Aujourd'hui, il offre son expérience à la communauté.
L'objectif, c'est de développer un environnement propice à l'innovation et à la création des startups, en renforçant le leadership et la culture entrepreneuriale chez les étudiants, en mettant en place un cadre d'échange et de travail collaboratif à l'intérieur de ces universités, parce qu'ici à l'ESP, les gens sont formés dans plusieurs disciplines, mais cette interconnexion n'est pas encore là. Et pourtant, quand nous mettons ensemble ces gens-là, ils peuvent réfléchir sur des solutions encore beaucoup plus innovantes et qui vont avoir un meilleur impact.
Espace Innov, c'est aussi des génies en herbe qui espèrent résoudre des problèmes sociaux de longue date. Pape Omar Niane est cofondateur de l'application Sonobus, qui s'attaque aux problèmes du transport en commun. Malheureusement, il ne bénéficie toujours pas de la collaboration des compagnies de transport.
Aujourd'hui, Sonobus est peut-être la 11e ou 12e start-up qui essaie de régler le problème des bus aujourd'hui à Dakar. Le problème, c'est que la solution évidente serait de mettre des GPS directement au niveau des bus. Et pour cela, il faudrait une collaboration avec Dakar, Dendic ou Aftu. Malheureusement, ces compagnies sont très lentes à réagir face à des demandes pareilles. Peut-être qu'elles veulent réaliser les projets eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a opté pour un modèle où nous serons assez indépendants de ces compagnies-là et proposer un service qui va essayer au moins de régler le problème.
Face à l'indifférence de leurs potentiels partenaires, les start-up d'Espace Innov comptent s'appuyer les uns sur les autres pour mener à bien leurs projets. Ibrahim Khan estime que la solidarité au sein de la communauté est vitale.
Les gens qui sont dans l'Espace Innov, certes, c'est des étudiants, mais ils sont très autonomes. Ils essaient de trouver par leurs propres moyens, d'accord, ils essaient de se former en communauté et c'est ça qui est le plus important. Si on reçoit de l'aide ailleurs, bah, tant mieux, on va les féliciter, on va les remercier, mais on attend plus de la communauté. Donc c'est comme ça, c'est ça l'esprit dans lequel nous sommes.
À terme, les initiateurs d'Espace Innov veulent étendre le projet aux autres universités et centres de formation du Sénégal afin d'encourager les jeunes à entreprendre. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Pourtant, elles sont peu présentes dans les fonctions de prise de décision. Dans le gouvernement, elles ne sont que 4 sur 33 ministres. De même, parmi les 114 députés, elles ne sont que 25, soit 21%. À Conakry, un mouvement est lancé pour les femmes en faveur de l'équité. Suivez le reportage de Zakaria Kamara.
Assise devant un plateau de légumes et fruits, au bord de la route, à proximité des ordures, rien ne semble arrêter Nsira, chef de ménage, dans la course vers son autonomisation économique. Je suis ici pour trouver à manger pour ma famille, gagner de l'argent pour payer la scolarité des enfants. Je suis veuve et donc chef d'une famille de plusieurs membres, dont ma mère.
Vous ne craignez pas pour votre santé?
J'ai peur, mais je n'ai pas le choix. Dans ce marché de la banlieue de Conakry, et comme dans tous les marchés du pays, les femmes sont les plus nombreuses. Elles représentent plus de la moitié de la population guinéenne. Mais la majorité de cette majorité constitue la couche la moins aisée, surtout la couche sous-employée pour des raisons de préjugés, de pesanteur sociale et de machisme. Le combat pour l'émancipation des femmes guinéennes est porté par plusieurs ONG. Le dernier né, pas sans elle, un mouvement de femmes intellectuelles lancé en réaction à la formation du nouveau gouvernement guinéen. Fatima en est membre.
Nous avons constaté avec regret 4 femmes au sein de ce nouveau gouvernement, tandis qu'on avait plus de 7 femmes, dont l'espoir pour nous était qu'il y ait plus de femmes au sein du gouvernement. Donc ce mouvement s'est créé suite à cette frustration de femmes.
Plusieurs dizaines de femmes, membres de mouvement, se retrouvent sur Messenger pour échanger autour de la promotion de la femme guinéenne.
Fatima Camara.
Ce mouvement regroupe des femmes, non seulement de la Guinée, mais de la diaspora. Nous sommes environ 250 femmes qui se sont réunies dans un groupe Messenger afin d'échanger des idées, des stratégies, comment impacter, comment faire plus la promotion des femmes guinéennes.
La représentativité des femmes dans les instances de prise de décision en Guinée reste l'un des objectifs de Pas sans elle. Le mouvement se veut rassembleur et semble satisfait d'être une plateforme regroupant tous les défenseurs des droits des femmes en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président américain Donald Trump a exhorté aujourd'hui les élus républicains du Congrès à approuver une vaste loi sur l'immigration au lendemain d'un revers judiciaire sur sa politique de tolérance zéro contre l'immigration illégale. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur émérite de l'université John Hopkins, William Zartman.
D'abord, je crois fermement qu'il est temps que la Chambre prenne sa décision et s'unissent autour d'une loi. Les immigrés illégaux sont illégaux selon la loi. Pour moi, la situation est très confuse, mais j'écoute bien le débat. C'est un problème qui doit être défini pour notre pays, pour les États-Unis. Et je crois qu'actuellement, au milieu de ce débat, la presse a pris cette idée de séparation des enfants et des parents qui n'est nullement nouveau et qui a été pratiqué pendant très longtemps légalement. Mais la presse a pris cette idée comme le clé du débat, du sujet, et a passé à côté tous les autres aspects beaucoup plus profonds et compréhensive d'une loi.
Est-ce que vous pensez que le président Trump bénéficie toujours du même appui, du même soutien des républicains de la Chambre ?
Non, les républicains de la Chambre, comme les démocrates de la Chambre, comme tout le système politique américain, est sérieusement divisé. Et je crois que c'est pas un président qui a une majorité à sa commande.
Est-ce que finalement, le scandale provoqué par la séparation ces 2300 mineurs n'a pas changé le débat autour de l'immigration au jour d'aujourd'hui aux États-Unis en le rendant un petit peu plus émotionnel ?
Complètement. Et comme je viens de dire, en négligeant, en laissant à côté les aspects sérieux et plus compréhensifs de la situation. Il faudrait voir les aspects de cette situation. Il s'agit d'une immigration illégale. Tout ce qui peut les légaliser, il faut séparer les cas d'asile politique des gens qui veulent simplement venir et doivent entrer sur les quotas, doivent entrer légalement. Donc, c'est une question de légalité et c'est ça qu'il faut juger.
William Zartman, professeur émérite de l'université John Hopkins.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Un Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Sidrac Franklin. À la présentation, Ekia Badou. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.